Alors, nous allons commencer. Alors, bienvenue, je m'appelle David Picciello. Je pense que je connais la plupart d'entre vous. Et je travaille aussi avec la Commission de sécurité et stabilité de l'ICANN. Et aujourd'hui, nous allons parler donc s'il y aura une pratique incroyable de manipulation de messages, de réponses à des requêtes de messages de domaine, surtout les conséquences qui ne sont pas anticipées de ces actions. Alors, par exemple, nous allons commencer avec une révision de quelle est donc l'expérience que souhaite l'utilisateur. Alors, l'utilisateur tape donc une adresse. Et donc, elle commence ici, par exemple, HTTP, bon, le nom de domaine, exemple, .com et la page. Et donc, le browser va demander donc de comment trouver ce nom à l'adresse IP pour faire la connexion. Alors, la requête est envoyée et donc trouve l'adresse IP. Et ce qui se passe, cela est branché au browser ou HTTP, donc le browser donc se branche avec la page et donc lorsqu'il y a la connexion, le browser va dire donnez-moi la page. Alors si la page existe, cela sera téléchargé. Si elle n'existe pas, cela doit montrer une erreur qui dit la page n'est pas trouvée. Alors ce qui se passe le DNS donc doit être retourné avec un code de réponse qui va dire donc erreur. Et le browser va montrer ça à l'utilisateur et dira à l'utilisateur en lui informant que la page n'a pas été trouvée. Alors, la modification de réponse de laquelle nous allons parler donc modifie cette expérience pour l'utilisateur. Et donc l'utilisateur a Donc, mais donc l'adresse et donc cela est demandé du lot. Alors, si le DNS trouve l'adresse, donc tout ce que je viens de décrire dans la fiche précédente reste de la même chose. Mais s'il y a une erreur et si l'adresse n'a pas été trouvée, donc à un moment donné, entre le moment où la requête a été demandée, et l'opérateur d'exemple .com, il va donc demander ça d'une manière qui est bénéfique. Et cela est fait sans la connaissance du registrant et de l'utilisateur. Donc, le registrant du .com ne sait pas que cela est en train de se passer parce que des fois, on n'est pas au courant en question des accords universels et les implications de sécurité ne sont pas identifiées, je veux dire. J'ai fait donc des études en question des accords qui viennent avec l'enregistrement de noms de domaine et des bureaux d'enregistrement qui fournissent ces services et ils ne donnent pas ces détails aux utilisateurs du peu ce qui se passait, je veux dire.
Idriss
Okay.
Oui,
Bonjour
bonjour.
Idriss, c'est l'interprète français, on a déjà commencé, hein?
Ah, d'accord, ok.
Donc,
Je n'ai pas vu,
je... Nous sommes en train de parler donc en question des bureaux d'enregistrement
là.
et surtout les règlements de sécurité qu'ils expliquent pas aux utilisateurs. Alors, maintenant, nous sommes dans la deuxième page des fiches, violation des protocoles, d'accord? Alors, donc.
Je vous écoute.
Ok, vous écoutez, hein? Ok. Alors, donc, le serveur du nom va montrer donc la fiche et cela sera présenté parce que cela doit correspondre aux adresses IP parce que le registrant veut publier cette page. Mais si vous regardez, par exemple, donc la réponse est montré comme une indication d'erreur. Et la réponse exprime donc le contenu que le nom d'autorisation souhaite que le client reçoive. Alors, le protocole du DDNSS peut donc fournir des moyens de présenter donc l'interception et la modification du message DNS. Alors, il va trouver donc une norme de cette manière-là d'identifier à un modèle d'identification. Ce qui se veut dire, c'est que de cette manière-là, lorsqu'il y a une réponse de message, il faudra donc recevoir une confirmation de la page que cela n'existe pas. Et autre manière de trouver cela est, par exemple, depuis la commission de sécurité, était donc décidé d'authentifier, par exemple, l'existence des pages de cette manière, à savoir que cela existait ou pas. Alors, j'avais dit donc que la modification peut avoir lieu du moment où le client envoie la requête jusqu'au moment où la réponse est créée, par exemple, par l'opérateur ou par la personne qui héberge la page. Donc, il y a deux classifications des personnes qui peuvent donc modifier les réponses. Le premier, c'est donc un agent de confiance. L'agent de confiance, c'est l'opérateur du serveur principal qui donne les services pour le registrant. Donc, dans l'exemple d'Adcam, c'est donc le serveur du nom qui gère, par exemple, le registrant, je veux dire. Alors, qui sont ces personnes? C'est des bureaux d'enregistrement, c'est des ISP, et sinon, c'est des tiers de confiance qui fournissent donc hébergement des DNS à abonnement. Et dans quelques cas, c'est tout simplement le département d'IP du registrant. Alors, et d'autres tiers, par exemple, beaucoup d'entre vous savent que c'est donc une banque de données et là, plusieurs fois, il n'y a pas donc une requête du nom. Donc, mais si le tiers est impliqué, c'est toujours l'intermédiaire et c'est surtout l'opérateur d'un serveur de nom qui peut fournir donc la réponse d'exemple d'Adcom au client qui a fait la requête. Alors, si vous vous souvenez donc, donc dans la synthèse générique d'il y a sept ans, disons que l'agent de confiance, c'est quelqu'un qui héberge donc la fiche, reçoit donc une requête de nom d'un client. Il détermine que le nom n'existe pas dans ses propres fiches. Donc, il va retourner donc une réponse d'existence du nom. Et cette réponse a donc une adresse IP pour celui-là. Alors, la connotation est que il doit retourner donc, parce qu'il y a des années, c'est que ce qu'on demandait de lui, c'est des noms qui ne sont pas trouvés, donc peuvent être choisis de cette manière-là. Alors, d'une manière plus simplifiée, donc, le client, donc, envoie une requête. Alors, nous voyons ça, exemple d'Adcam, et c'est donc le site qu'il essaie de résoudre. Alors, donc, il y a l'adresse www. Et donc, cela est le nom de serveur qui va continuer à poser des questions de la part du client jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse à la requête que le client a envoyée. Alors, dans ce cas-là, la première chose qui se passe, c'est demander donc au serveur du nom à savoir quelle est l'adresse. Alors, mais les serveurs de nom ne gardent pas ça, mais ils gardent quand même les adresses des serveurs communs. Alors, par exemple, Celui-là va demander donc exemple.com, il va demander qui est le fournisseur du service du nom. Et donc, de cette manière-là, il va demander la question au serveur du nom de exemple.com. Alors, pour faire l'hébergement de son propre fichier de la part du hôte. Alors, dans la situation de synthèse générique, dans la réponse simplifiée, le serveur du nom de exemple.com va dire qui vient d'exemple.com avec l'adresse, avec une réponse certifiée. Et donc, de cette manière-là, donc le serveur du nom de exemple.com en question de IP, donc qui a va pas retourner l'adresse et qui a été originellement mis dans... Donc, l'opérateur, c'est celui qui finalement choisit cette adresse. Et donc, la réponse qu'il va envoyer, c'est www.a.com.c.c.c.c. Et de cette manière-là, donc, il va envoyer cette requête au client. Et maintenant, le client va utiliser cette adresse pour se brancher à la page. Mais c'est en fait une connexion où le client ne va pas se rendre compte que le nom n'existait pas. Alors, l'autre manière, c'est donc modification de réponse. Et c'est donc lorsqu'il y a une connexion entre le client, on retourne à l'exemple.com en question de modification de la réponse. Alors, dans ce cas-là, le tiers, l'opérateur examine donc tous les messages de réponse DNS qu'il essaie de résoudre pour le client. Et donc, de cette manière-là, c'est par exemple un solveur de réponse. Alors, lorsqu'il trouve donc une réponse qui n'existe pas de nom, cela va être envoyé donc au client en lui informant que cela n'existe pas. Alors, dans ce cas-là, nous avons donc le déroulement. Le client donc envoie la demande suivante, www.exemple.com. Il y a donc l'IP adresse et donc il est demandé quels sont les serveurs du nom. Et cela donc est envoyé à l'exemple du serveur. Mais ici, la réponse n'est pas en train d'être modifié, il donc va envoyer donc que c'est un domaine qui n'existe pas et donc il va dire, oh oui, c'est un nom qui n'existe pas, donc je peux en profiter de cela et donc je vais tirer cette réponse et je vais envoyer une adresse IP à la personne qui a envoyé cette requête et ça va être donc www, d'exemple, parce que ça va être une adresse qui va me donner des bénéfices à moi. Un moment s'il vous plaît, hein. Il y a des questions en ce moment jusqu'à maintenant? Alors maintenant, nous avons vu les deux méthodes différentes. Alors maintenant, nous allons voir l'opportunité et les raisons pour lesquelles nous faisons ça. Et de cette manière, on va essayer de déterminer qui, comment et pourquoi voudrait modifier donc une réponse des DNS. Alors par exemple, qui peut les modifier? On a déjà parlé, ça peut être par exemple le sponsor et le bureau d'enregistrement comme l'agent de confiance. Ça peut être le fournisseur public DNS. Ça veut dire un opérateur ou n'importe quelle personne qui offre, par exemple, hébergement de DNS par abonnement. Ça peut être donc le ISP, ça peut être ce qu'on appelle un proxy opérateur de web parce qu'ils font résolution du nom de la part des gens qui ont des connexions à travers des. Ça peut être donc un commerce et malheureusement, ça peut être des pirates aussi. Alors, donc, dans le pourquoi, je veux dire, donc nous montre donc deux variations ici, dont la personne peut donc soit être le tiers et le pourquoi, la majorité, c'est pour donc tirer des bénéfices. La majorité, c'est donc des commerces publics pour soit de la publicité, pour par exemple générer du revenu par des espaces publicitaires et pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Parce que cela, donc, lorsqu'on dit à un utilisateur qu'il y a une erreur, c'est pas la manière dont on veut gérer ça, et c'est en fait de comment informer à l'utilisateur d'améliorer. C'est donc les registrants de domaine peuvent faire ça pour avancer ou appliquer la politique ou pour donner donc de l'éducation. Et lorsque je dis ça, c'est que les registrants de domaine veulent contrôler les destinations. Des fois, les organisations d'IP d'un registrant de domaine veulent contrôler donc la destination qu'un utilisateur ou un commerce veut accéder. Donc, ils peuvent de cette manière bloquer des adresses IP et des noms de domaine avec le but d'éviter des attaques d'hameçonnage pour éviter information qui n'est pas donc vue de manière appropriée pour des ressources pour la société. Donc, les pirates ont donc les mêmes raisons et c'est surtout pour gagner de la fortune. Alors maintenant, nous allons voir comment est-ce que les utilisateurs sont affectés et puis comment les registrons. Donc il y a une réponse de DNS modifiée. Donc ça va être donc un état différent en question de signal de la zone de l'utilisateur. Alors donc de manière donc l'intention du registrant, par exemple, c'est surtout l'utilisateur va conclure que le hôte à qui il a été dirigé, qui est opéré par le registrant, est opéré par celui-là où il a envoyé la requête. Dans la majorité des fois, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, lorsque vous allez par exemple à www.citibank.com, alors vous pensez que vous allez vous brancher à Citibank, mais si ce nom est résumé donc à une page de publication ou une page de recherche qui est opérée par un ISP ou par un bureau d'enregistrement, Citibank.com n'est pas la société qui opère. Cela donc d'autres manières dont les utilisateurs sont affectés, c'est que l'enregistrant ne peut pas nécessairement recevoir la même réponse s'il envoie la requête deux fois. Donc la manière dont cela se passe, c'est si l'enregistrant, par exemple, se connecte ou essaye de se connecter à www.exemple.com, à un des solveurs d'un endroit, par exemple, de sa maison, il peut recevoir une réponse, mais s'il essaie de connecter d'un autre endroit, par exemple, d'un kiosque de Wi-Fi, disons, près de son appartement ou dans le couloir, il peut recevoir donc une réponse différente parce que le Starbucks ou le hôte utilise donc un solveur différent. Et donc, les deux solveurs peuvent choisir de faire modification de réponse et puisque les deux font ça pour tirer donc du profit pour eux-mêmes, très probablement, ils vont donc utiliser des autres différents pour rediriger le trafic. Une troisième situation qui va donc affecter les utilisateurs, c'est que si l'autorité donc peut ajouter à un autre comme www.com et donc ajoute une adresse pour ce hôte et ce hôte est déjà en train d'être redirigé. Donc, alors en dépendant des solveurs où les requêtes sont envoyées, il est bien probable qu'il ne va pas donc finalement arriver à la page ou à l'administrateur d'exemple .com où il essayait de se connecter originellement. Donc, en ce moment, nous avons une situation. Donc, bon, on utilise Citibank. Citibank dit, donc, il y a www.citibank, redirection. Alors, ça nous rend fou. Nous allons ajouter un autre. Donc, nous ajoutons un autre. Et donc, c'est dans l'adresse IP. Et donc, ça va dans la zone de Citibank. Alors, si si vous retournez au deuxième exemple que j'avais donné précédemment, un client va demander est-ce que ce nom est disponible. Mais à cause du caching, les opérateurs de ISP et des solvers vont avoir l'adresse de l'autre de redirection de l'exemple précédent que j'avais donné, ce qui veut dire en dépendant donc de la longueur des ISP qui vont maintenir, donc en dépendant de la longueur du temps que ce domaine va être gardé, la résolution du nom www.citibank à l'adresse que Citibank a choisie ne peut pas avoir lieu pendant des jours ou des heures ou des minutes. Alors, comment est-ce que les registrants sont affectés par cela? Alors, dans certaines manières, c'est disons, les mêmes conséquences que l'utilisateur. Alors, en question de contenu modifié, donc, par exemple, il y a modification de contenu de l'autorité du domaine qui a l'intention de présenter, par exemple, alors, en question de registrant, est-ce que vous accepterez modification pas divulgée de contenu d'application? Est-ce que voudrez-vous une intersection de modification de vos messages? Avoir des, par exemple, interception et modification, par exemple, ou connexion lorsque vous essayez de vous brancher à une partie différente et d'autres manières que les registrants sont affectés. Et je pense que c'est une conséquence très importante, c'est que le haut de redirection tire en profit de la marque et de la réputation et de la popularité du site et surtout des accords de sponsors pour le site. Donc ici, nous avons donc une société qui enregistre un domaine, qui gère donc une entreprise sous une marque et les noms de cette marque sont redirigés donc à des pages qui présentent des ads de publicité, par exemple, de concurrence. Disons, Dupont est enregistré et donc vous êtes redirigé à une page qui donc publie donc les produits qui sont la concurrence de Dupont, par exemple. Publication d'informations fausses des produits de Dupont en essayant d'usurper, par exemple, l'identité de Dupont avec d'intentions malveillantes pour les clients. Nous avons déjà parlé des instabilités opérationnelles. Alors maintenant, nous allons parler un peu en question des conséquences de sécurité. Alors, dans le monde d'applications de web, mesures de sécurité, c'est que, disons, un parent peut avoir confiance dans le sous-domaine. Donc, par exemple, les applications de web, on assume que l'adresse IP, on peut faire confiance parce que le nom ou les serveurs et l'application sont tous sous l'administration de Dupont ou Citibank ou disons, les opérateurs de confiance. Donc, ici, nous venons de perturber ce modèle. Et puis, le deuxième problème, par exemple, pour les organisations, pour les sociétés, c'est que, tel comme on avait dit avant, maintenant, il y a une note qui est déjà dans votre domaine, mais qui est déjà donc contrôlée par quelqu'un d'autre. Donc, dans le cas de Dupont, par exemple, et j'ai déjà travaillé avec Dupont, ils ont un département d'IP et donc ils essayent donc de fortifier leurs serveurs pour éviter des attaques et pour les faire très confiables, surtout pour des transactions de commerce par Internet. Et maintenant, il y a donc un autre domaine qui n'est pas géré par Dupont, mais c'est sous le nom de Dupont. Donc cela représente un autre problème de sécurité, mais c'est un problème aussi pour quelqu'un qui a donc une obligation de conformité ou de politique, parce qu'on ne peut pas donc faire des audits et des tests dans, par exemple, des pages ou dans des changements qui sont en train d'être redirigés par un autre qui n'est pas l'hôte originel en question de la modification de réponse. Alors, ce qui pose plus de difficultés, surtout, et ça a été donc perfectionné par John Kaniski, et donc c'est la personne qui a découvert l'exploitation des DNS, c'est par exemple ces réponses modifiées créent des opportunités pour des attaques à travers d'un autre qu'une organisation ne peut pas contrôler. Une des choses qu'on peut faire, c'est donc faire des injections de sites. Et donc, en créant un site de redirection, un ISP ne va pas donc protéger la page originelle et donc la page sera vulnérable à une exploitation. Alors, c'est là, si le département d'IP avait une manière de, par exemple, de protéger le site, donc une manière de faire ça, c'est parce qu'ils peuvent donc intercepter des cookies pour obtenir l'information personnelle et même injecter donc des scripts. Alors, donc vous êtes, je pense que vous connaissez ce que c'est un script d'injection et ça prend avantage de prendre des logiciels à gérer, par exemple, des éléments au site qu'il n'avait pas l'intention de faire ou de visiter. Donc, dans sa totalité, un des problèmes principaux que nous avons en ce moment, pour une organisation surtout, c'est que ces réponses peuvent faciliter des attaques contre les marques. Et donc, je pense que c'est tout ce que nous devons dire ici. Et puis, il y a d'autres problèmes, et j'avais parlé en question de ça, c'est qu'aujourd'hui, les réponses de modification assument qu'il y a donc un utilisateur qui regarde le browser et donc qui a une valeur à ajouter donc des modes de recherche pour des espaces publicitaires dans le web. Donc l'enregistre type A par exemple qui traduit le nom à l'adresse d'IP, c'est celui qui vise son attention question de modification de réponse. Et je viens de mentionner, par exemple, précédemment, imaginez si d'autres applications tombent aussi sous les yeux des personnes qui veulent faire ces attaques. Donc, par exemple, des correspondances, des enregistrements sont modifiés. Donc, de cette manière-là, s'il n'y a pas donc d'enregistrement de MX qui ne correspond pas à un nom, donc je vais vous rediriger donc à cette page fausse et donc tout message que vous envoyez à ce serveur va vous envoyer donc à un espace publicitaire et dans le pire des cas à faire d'un messonnage du URL. Des fois c'est possible de faire ça avec donc identification de voix, par exemple traduction d'un nom de famille à un numéro de téléphone par exemple. Donc ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que vous essayez de appeler Citibank et vous aviez fait une erreur et au lieu de donc appeler Citibank, vous êtes donc connecté donc à un serveur qui est en train de gérer par un pirate et donc il va vous dire de mettre le numéro de votre carte et votre information d'identification et de cette manière-là, ils peuvent obtenir vos informations personnelles. Parce qu'il faisait partie du DNS. Et donc, ça, c'est un problème très important. Et c'est un problème assez important pour que la communauté puisse essayer de gérer ces problèmes. Alors, ce qui est marrant, surtout de ces pratiques, c'est que, surtout, la partie qui est plus proche au client a, disons, pas autant d'autorité dans la modification. Donc, si on retourne à l'exemple que je vous ai donné, imaginez par exemple l'agent de confiance et celui qui fait la modification à travers d'une, par exemple, d'une synthèse générique. Et juste avant que la réponse arrive au client, disons, un ISP très intelligent, regarde des réponses qui viennent de ça et donc il dit si je vois une réponse qui a donc une résolution de www exemple .ip, je vais le changer donc à w.ixp et donc c'est donc réécriture et donc il n'y a pas donc de garantie si on fait ça à n'importe quel niveau que la réponse va être donc délivrée ou qu'elle va être modifiée. Donc on termine avec cette concurrence entre les personnes qui font la résolution d'erreurs pour la dernière opportunité à obtenir l'information personnelle. Donc, et la dernière chose que je voudrais faire, c'est que les browsers ont la possibilité de faire ça. On n'avait pas mentionné ça dans la présentation et on ne parle pas de ça sur le rapport parce que bon, les browsers n'ont pas l'autorité à faire ça, mais les browsers ont la possibilité de faire ça parce que les browsers, la dernière chose qui est regardée par l'utilisateur. Alors, donc il y a plusieurs de recommandations de la part du SSAC dans son rapport préliminaire. Et donc, c'est des recommandations qui ne sont pas assez fortes, mais on a l'intention de continuer à travailler dans ce problème. Donc, nous sommes en train de parler avec des avocats qui gèrent des marques pour essayer de fortifier donc la protection pour ces pratiques. J'ai l'intention de parler avec plusieurs personnes, dont le gouvernement qui gère. Nous parlons aussi avec des avocats de WIPA pour essayer d'apprendre un tout petit peu plus sur une manière d'éduquer globalement et bon des gens de la LAC qui ont plus d'opinions, par exemple, en question des problèmes que ces pratiques créent, bien entendu, peuvent nous donner leur opinion et peuvent participer dans la discussion. Alors, donc, j'ai déjà terminé avec la présentation. Si vous avez des questions. Alors, beaucoup de silence. Y a-t-il des questions? Et je voulais juste dire... Il n'y a pas de questions?
Comment je fais pour poser la question? Allô?
Oui, alors je vous écoute.
Comment je fais pour poser la question?
Comment quoi?
Moi, je fais pour poser la question. Je la pose directement.
Ah oui, vous la posez à moi. Et c'est moi qui la traduis. Alors, comment?
Ah, d'accord. Oh oui, allô?
Oui, je vous écoute.
D'accord, donc la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'il existe des textes juridiques pour pouvoir protéger ou bien situer la responsabilité des ISP ou des registrants ou des registrats concernant la réécriture et la redirection ou le détournement des NS?
Alors, donc s'il y a des textes juridiques...
Voilà.
Alors, des textes juridiques à essayer de...
Est-ce qu'il existe des textes juridiques pour situer la responsabilité des registrants concernant l'écriture?
Alors, nous sommes en train d'essayer de consulter avec des avocats globalement pour essayer de comprendre les conséquences légaux. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas trouvé personne qui a, par exemple, une loi ou une loi précédente. Alors, ce qu'on m'a suggéré en privé, c'est que peut-être... Et il peut avoir des conséquences dépendant de la juridiction. Mais il n'y a pas, par exemple, une réponse définitive en question de ça. Donc, on a l'espérance d'apprendre plus et c'est pour cela qu'on a écrit ce rapport préliminaire. Parce que, par exemple, dans la plupart des questions que nous cherchons en ce moment, c'est on essaye d'avoir plus d'opinions de la communauté en question de plusieurs de ces sujets. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui, c'est bon, ça peut aller. Oui, ça va.
Magnifique. Alors, ce que je trouve en question d'interception des messages de DNS et en question de rassembler, par exemple, des erreurs de nom ou, par exemple, modification des IPP et en question de voir ce que les gens essayent d'acquérir en question de disponibilité des adresses, il y a un point où, par exemple, il faut faire tellement de choses pour faire de l'argent, par exemple, de la part de ces gens, qu'ils opèrent pas d'une manière régulière, par exemple. Par exemple, la majorité de fois que je conduis donc à la station d'essence et pour voir quel est le type de publicité que vous allez me présenter parce que je suis une homme entre 45 et 60 et je conduis une voiture étrangère, je ne veux pas que les banques rassemblent ce type d'informations sur moi, par exemple. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas comment, par exemple, essayer de récupérer tout ce qu'on a perdu dans ce domaine. Alors, c'est Eduardo Diaz a posé une question de la part de Porto Rico. Alors, la deuxième recommandation. Alors, en question de choisir un agent de confiance pour éviter les modifications de DNS, c'est pas ça une des raisons pour laquelle nous sommes en train d'avoir ces problèmes parce que nous faisons confiance à des agents. Comment savoir choisir un agent de confiance qui va pas faire ça? Alors voilà un exemple, par exemple, parce que je sais que j'ai du texte ici. Alors voilà donc un exemple de comment pouvoir choisir. Donc voilà un exemple d'un accord de service. Donc, l'accord de service, par exemple, du Bruto, justement, va dire, vous êtes d'accord que n'importe quel directoire de nom de domaine qui ne va pas, donc, à une page de web peut y être utilisé par nous, donc, pour mettre une page de construction ou une page temporelle, et patati et patata. Donc, la majorité des accords vont présenter ce type, donc, le registrant a la responsabilité de bien voir donc les accords de plusieurs pages, à savoir s'ils sont en train de permettre au bureau d'enregistrement cela pour voir si le fournisseur va faire quelque chose que le client n'a pas envie de faire. Et donc c'est de la responsabilité du client à voir dans le contrat. Par exemple, c'est de la même manière lorsque vous achetez une télévision, n'est-ce pas, vous allez regarder le contrat pour voir. Et c'est de la même manière en question, par exemple, de choisir un agent de confiance. Et donc, de cette manière-là, vous êtes d'accord à choisir à partir du contrat. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le choix d'aller ailleurs. Et donc, c'est une raison pour laquelle beaucoup des commerces donc ont des accords très minutieux, par exemple, avec les opérateurs et avec les fournisseurs d'hébergement qui ne permettent pas ce type de comportement, qui ne permettent pas ce type de trafic. Et donc, je pense que c'est surtout une question de ça. Et donc, ça doit être surtout la responsabilité de l'utilisateur et du commerce. Et Dave, est-ce que votre commission considérerait présenter une réponse à des révisions proposées de l'accord du RAA pour, par exemple, déligner des pratiques malveillantes à nous montrer ce qu'on peut faire de la partie du bureau d'enregistrement, par exemple? Alors, donc, voilà le problème que j'anticipe et que je voudrais avoir plus de dialogue. J'ai eu la même conversation avec 3 bureaux d'enregistrement lorsque j'ai donné cette présentation à Paris. Et bon, alors les browsers ont la possibilité de le faire, LazyStep peuvent le faire. Et les gens qui sont en dehors de l'accord du bureau d'enregistrement peuvent le faire.
J'aimerais apporter une contribution. Allô?
Oui, vous m'entendez?
Oui, j'aimerais apporter une contribution.
Bien entendu.
D'accord. La contribution que j'aimerais apporter concernant les redirections des sous-domaines et les réponses, les requêtes.
Oui.
J'appelle la Côte d'Ivoire et je parle spécifiquement du cas africain que je connais le mieux.
Alors, attendez donc, vous appelez la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et alors?
J'aimerais parler typiquement du cas de l'Afrique, du cas des registres des CCTLD africains.
D'accord, ok.
Donc, moi je pense, à mon humble avis, que une chose qui pourrait aider les gestionnaires de notre domaine, les CCTLD, les registrants et les personnes de confiance qui gèrent et qui enregistrent les noms de domaine, c'est dans un premier temps de mettre en place des outils d'aide à la décision, de mettre en place des outils qui vont permettre de leur donner des statistiques sur le fonctionnement de leur serveur DNS. Parce que plus généralement en Afrique, beaucoup de CCTLD, beaucoup de registrants, beaucoup d'agents de confiance tiers qui hébergent, qui gèrent et qui font fonctionner les noms de domaine n'ont pas les statistiques de fonctionnement de leur serveur DNS. Par exemple, on pourrait mettre en place des outils qui donnent le nombre de requêtes qui a été effectuées sur le serveur DNS, le nombre de requêtes qui a réussi, le nombre de requêtes qui a demandé l'enregistrement NS, le nombre de requêtes qui a affiché NX domaine, et en fonction de ces données, on pourrait anticiper et réfléchir sur comment sécuriser ou bien améliorer ou bien optimiser le fonctionnement de notre serveur DNS afin d'éviter ces détournements et ces réécritures et ces redirections de sous-domaines. Bon, moi, c'est ce que j'avais apporté comme contribution.
D'accord. Alors, je vais passer ça à l'autre côté. À maman, s'il vous plaît.
D'accord.
Alors, je continue donc avec la traduction. Je vais passer la contribution dans un moment. C'est que, alors, je vous explique comment ça marche. Il faut que je mette sur Skype que vous allez donner une contribution parce que j'ai pas le droit d'interrompre, n'est-ce pas? Et dès qu'ils me disent que je peux ajouter la contribution, je l'ajoute et ils me donneront leur opinion. D'accord?
Ok, il n'y a pas de problème.
D'accord. Ok, je la passe dans une minute. Hein?
D'accord.
Et donc, en ce moment, ils sont en train de parler en question du piratage et surtout le but des pirates parce qu'ils ont envie de faire plus d'argent. Alors, je viens de donner votre contribution. votre contribution et je pense qu'il est bien possible de faire ça. Donc, ils font déjà un peu à ça de la part des gens qui sont engagés en question du marché de résolution. Il y a une compagnie qui s'appelle Bearfree.com et cette société, par exemple, fournit des services de redirection pour plusieurs bureaux d'enregistrement pour plusieurs revendeurs et aide donc à programmer les chaînes de publicité. Et donc, ils ont, par exemple, des demandes spécifiques et surtout des statistiques qu'ils doivent montrer, par exemple, dans la manière dont chaque site est visité, par exemple. Par exemple, les gens de Bearfree doivent faire la même chose. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, par exemple, du point de vue pour vous, ça serait bien de montrer combien de trafic est en train de rediriger à ces pages-là, par exemple, à savoir la quantité de trafic et quel est le pourcentage de ce trafic qui est redirigé, qui, par exemple, termine ou qui résulte dans une attaque ou qui résulte, par exemple, en essayant de falsifier une marque, mais c'est un processus qui est très difficile et très intensif. Donc, c'est une activité à haut volume et donc, ça serait une question d'essayer de faire plus d'études en détail en question de ça. Allô?
Oui, je vous écoute.
Vous avez entendu la réponse?
Entendu. Merci beaucoup.
D'accord, et je viens de les remercier de votre part. Hein?
Merci beaucoup.
Et donc, c'est la fin de la session. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à Dave de la part de Nick en question de ça. Et donc, Dani, j'ai une dernière question. Donc, on avait vu donc à certaines opérations de CCTLD ont profité donc des opportunités de synthèse et nous sommes pas dans la position, par exemple, à faire quelque chose en question de ça. Alors, est-ce que vous voyez le CCNSO à passer par un processus de maturation pour essayer de gérer ces problèmes? Bon, j'espère bien, je veux dire. Je pense que surtout... surtout éventuellement et surtout on voudrait bien avoir plus de conversations en question des services, des limites des CCL, GTLD, mais je pense qu'on ne devrait pas en essayer de les laisser tomber et qu'ils ne participent pas dans des conversations à propos des politiques, parce que plusieurs d'entre eux, surtout Rallo par exemple, vont vouloir contribuer à des politiques qui viennent du GNSO. Et donc, il faudrait donc avoir plus d'interactions et surtout plus de réactions et de retours du point de vue des CCTLGLD, des politiques qu'ils essayent donc d'appliquer. Bon, il y en a un qui est C et il y en a un qui est G. Bon, et les utilisateurs ne donnent pas d'importance si c'est un C ou si c'est un G. Si je veux être à Datcom ou Dat, tout le monde dans 5 ans va être en train d'utiliser, par exemple, la même technologie de recherche et vont se brancher par nom et pas par domaine. Donc, il faut faire attention aux conséquences qui vont être menées, surtout à l'avenir. Et surtout, nous sommes déjà donc à l'apogée des noms de domaine en question de l'opération de GTLD et surtout l'adoption de ça. Et surtout, les CCTLD plus dominants vont changer leur politique et surtout la distribution très dramatiquement. Et, mais c'est comme ça que ça va marcher, donc. Et donc... Donc, il faut faire plus attention en question de communauté globale à comment est-ce que le monde va gérer tout cela. Ils ne vont pas gérer tout cela en essayant de se souvenir de qui est le TLD. Ils vont essayer de gérer ça en sachant quel est le nom. Et surtout, on est en question de recevoir les résultats de recherche. Mais je vais vous dire, dans 5 ans, c'est la manière dont dont la plupart d'entre nous vont se comporter. Parce que les utilisateurs, la raison pour laquelle nous avons donc des marques en deuxième niveau, c'est parce que nous avons besoin surtout d'une hiérarchie et d'une manière de distinguer les choses. Et si nous avons donc 1000 domaines de haut niveau, une majorité d'entre eux dans des, par exemple, chiffres que les gens ne comprennent pas, soit en arabique, soit en anglais, quoi que ce soit, et ça représente donc un web très différent de ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, les outils de navigation, lorsque nous mettons les noms ou les noms de domaines où les gens pensent qu'ils comprennent, par exemple, le contenu des noms de domaines, je pense que ça va changer pour l'utilisateur à l'avenir. Donc, il faudra donc être très précis en question de chercher ou faire des recherches en se basant par le nom. Et aujourd'hui, il n'y a que une d'entre 10, par exemple, de mes connexions de web, de nos domaines, se basent en mettant un hyperlink au lieu de faire une recherche. Et je pense que ça va être la norme. Je vois mes enfants, ils ont 16 et 20 ans, ils font déjà la même chose. Donc, je vois les générations à l'avenir et ils veulent utiliser les outils et je vois les générations des gens qui ont 50, 60 ans et ils n'ont pas la possibilité d'utiliser cela. Donc, ça vous donne un point de vue en question de la direction que nous avons à voir. Mais je pense qu'il va falloir se concentrer dans plusieurs des sujets, de comment pouvoir retenir une structure d'opération pour les noms de domaines, parce que ça ne va pas être de la même manière dont cela sera présenté à l'utilisateur à l'avenir. Et de la part de Sébastien, c'est surtout, c'est exactement ça, on ne veut pas avoir toute cette quantité de noms de domaine, je veux dire. Vous allez à Cairo, Sébastien? Oui. Alors, je vous verrai à Cairo et donc je vais vous trouver. Et donc, on pourra avoir une conversation en question de ce sujet parce que c'est un sujet très important. Et c'est surtout un sujet différent. Le marché donc continue donc à augmenter parce qu'il y a plus d'utilisateurs qui utilisent cela et nous sommes déjà à un point où il faudra donc décider et ce sera intéressant de voir ce qui va se passer dans 5 ans. Bon, moi je dois partir, merci à tout le monde. Ok, c'est la fin de la session. Merci beaucoup. Hein.
Merci beaucoup.
Au revoir et très bonne journée. Un plaisir.
D'accord, merci, au revoir. J'étais en conférence de politique là. Une conférence de présentation. conférence de la division sécurité et stabilité du comité consultatif médical. C'est pas implanté, ça. Celui qui gère Internet et les noms de domaine dans le monde. Ah, c'est pas. Je suis en ligne là, je suis même à traduire toute la conférence en français. Ah, si parle pas anglais. C'est lui qui m'a appelé. T'as vu, il m'a appelé la première fois. Il était pas là. Qu'est-ce que la deuxième partie de la conférence, il m'a rappelé.
Je suis là-bas. Ah, ok, d'accord. Donc, il t'a arrivé. Et il t'a arrivé tous les papiers, non? 30. Donc, tu vois tout ce que tu peux.